sa nouvelle existence lui fut si douce qu'elle se disait à elle-même pour entendre sa voix « Je suis mariée, je suis une femme ». Ne plus être rabrouée du matin au soir par sa mère ou ses frères, ne plus traire les vaches, battre le beurre, retourner les fromages, quelle délivrance! Il lui semblait qu'une longue taquinerie méchante venait de prendre fin, et elle se plaisait au défilé des heures vides et silencieuses. Si j'étais à la ferme, j'aurais à écrémer 10 pots de lait, à rincer les cannes, à faire boire les veaux. Elle éprouvait la même sensation de bien-être physique que celle qui engourdissait la mère Renson somnolent le soir au coin de l'âtre. Puis elle avait des robes, et longues. Édouard lui acheta un trousseau complet, puisqu'elle ne possédait rien. Quand il rapporta d'Avène le paquet, elle riait et battait des mains. 6 chemises, 6 pantalons, des caches-corsets, des jupons, des bas écossais, 2 robes de nuit en flanelle blanche avec des faveurs bleues, etc. En songeant au linge grossier filé à la maison, elle se prit à dire « Si maman voyait tout cela, comme elle serait en colère !» Les journées coulaient, toujours les mêmes. À l'aube, Édouard se levait sans éveiller sa femme, allumait le feu dans l'atelier, se mettait au travail. À 7 heures, il préparait le café. Angèle, éveillée par les coups sourds du marteau frappant le cuir ou par les éclats de voix d'un client, s'asseyait sur le lit, rangeant inlassablement des babioles dans de grandes boîtes en carton. Il entrait. « Ah ah, les enfants sont éveillés. On dit pas bonjour à son père ?» Elle l'embrassait sur ses grosses joues rouges, tirait ses moustaches longues et tombantes. Il la prenait dans ses bras, heureux de la sentir si menue, et la portait auprès de la table. Il faisait griller des tranches de pain beurré sur lesquelles il étendait une couche de maroilles. Il faut que les enfants mangent toutes leurs tartines. Après le déjeuner, il allait acheter la viande pour le pot-au-feu, qu'il tenait à surveiller lui-même. Aussi souvent que possible, il rapportait des harengs frais ou des oreilles de cochon. « Ce soir, nous mangerons une bonne oreille de cochon, j'aime bien ça. » Tout joyeux, il se rasseyait sur son tabouret de cuir. Elle s'attardait à sa toilette, nattait ses cheveux, nouait soigneusement les faveurs bleues de sa robe de nuit, jusqu'à l'arrivée de Manjulie, une vieille voisine qui, depuis 10 ans, faisait le ménage du bourrelier. Comme elle craignait de perdre ses 6 francs par mois, elle ne permettait pas qu'Angèle s'occupât de rien. « Qué belle tiote femme, laissez-moi faire, ma fille, vous avez bien le temps de travailler !» Ce qui ne l'empêchait pas de dire dans le village. « Eh bé, il est bien monté, l'Édouard, avec sa poupée. C'est une femme d'ouvrier, ça ne fait pas œuvre de ses 10 doigts !» Agacée par le bavardage de la vieille, Angèle allait trouver son mari à l'atelier. Les cheveux en 2 longues tresses pendantes, l'une le long de la joue, l'autre dans le dos, souple en son peignoir qu'elle aimait voir traîner derrière elle, un peu boudeuse, elle s'avançait. Puis vite amusée, frottait les boucles de cuir des harnais. Édouard riait de la voir s'essouffler à ce travail inutile. « Frotte plutôt ta batterie de cuisine, puisque Manjulie ne veut pas !» Elle prenait les outils sur l'établi. « À quoi sert celui-ci ? Et celui-là ? Et ça ?» Lui parlait peu, se contentait de rire avec de temps en temps. « Allons les enfants, il faut vous tenir tranquille !» Et il continuait à piquer ses harnais, tout en serrant dans sa bouche de longs bouts de fil poissé. Après le déjeuner de midi, où il la servait comme une fillette, elle essayait de coudre, s'ennuyait, recommençait à ranger ses boîtes, fouillait dans les papiers de famille d'Édouard, lisant jusqu'aux signatures des actes notariés et retournait à l'atelier. Parfois un roulier entrait, et après avoir bruyamment salué le bourrelier comme à l'ordinaire, « Tiens, tu as un commis !»«
C'est ma femme !»«
Ah, quelle belle tiote femme » disait-il plus lentement, avec une nuance de désapprobation, car il s'étonnait de voir une femme d'ouvrier si frêle et inactive. Elle flânochait ainsi jusqu'au repas du soir qu'il préparait avec soin, surtout lorsqu'il s'agissait de réussir l'oreille de cochon. La veillée ne se prolongeait guère. Il la déshabillait, lui ôtait ses bottines, ses bas, et la portait au lit, en coulant à ses pieds un cruchon d'eau chaude quand il faisait froid. Elle ne sortait dans le village que pour aller à la messe le dimanche, au marché le jeudi. Parfois, elle s'attardait à bavarder avec quelque ancienne camarade d'école, envieuse à crever de son mariage, de ses mains blanches, de son peignoir. Au retour, son mari la grondait. Elle se sentait toute petite comme devant sa mère et disait vite, à la façon des enfants qui s'excusent, « J'ai rencontré Joséphine Badré, on a joué, non, on a causé, on a parlé de sœur Obéline. On n'a pas fait de mal, on ne le fera plus, non ?» Il riait. « Quel gosse, quel gosse !» L'été, ils allaient parfois passer l'après-midi du dimanche à Aven. Ils partaient à pied et prenaient à mi-chemin la diligence qui faisait le service d'Aven à la chapelle. La promenade était toujours la même. Ils regardaient les vitrines de tous les magasins de la rue principale, en passant et repassant sur chaque trottoir. Après avoir dit bonjour au bourrelier qui tenait boutique sur le quai de la Grande Helpe, ils dînaient dans un restaurant de la place. À la nuit tombante, ils quittaient la petite ville qu'Angèle trouvait élégante et marchaient en silence dans la nuit chaude jusqu'à ce que la diligence les rejoignît. Le désœuvrement finit par lui peser. Elle se remit à lire. Elle parla à son mari des bonnes heures qu'elle avait passées dans le grenier à foin et il lui rapporta d'Aven quelques livres à 13 sous, compacts, à la couverture flambante, pris au hasard chez un libraire. Tous les jours, elle se jetait sur les feuilletons de l'Écho du Nord ou du Petit Parisien, guettant le marchand de journaux, allant au-devant de lui. À plusieurs reprises, elle essaya de raconter au bourrelier les aventures et les malheurs de ses héros, mais il ne voulait pas entendre parler de toutes ces carabistouilles. Pour ressembler au portrait d'une comtesse tyrannisée par son amant, elle fit bouffer ses cheveux sur le front. Mais son mari se fâcha. « Des bandeaux plats avec une raie !» Elle le trouva tyrannique. Elle en vint à compatir à la tristesse de Madame Masson, la cabaretière, sa voisine, l'ancienne maîtresse d'Édouard. Depuis 12 ans, elle soignait un mari impotent, espérant qu'elle serait bientôt une veuve aisée, encore de prise, et qu'Édouard l'épouserait. Par provision, elle l'avait eu pour amant. Triste et mortifiée de son mariage, et dans les premiers mois répondant à peine au salut d'Angèle, qu'elle croyait ironique, elle reprit espoir en voyant que sa rivale n'était qu'une enfant. Son bonjour devint plus cordial. De loin en loin, elle vint à l'atelier, sous prétexte de faire raccommoder quelques savates. Édouard, qui d'ordinaire invitait ses clients à boire un verre de cidre chez lui, prit l'habitude de leur offrir une pinte ou un verre de genièvre au cabaret Masson. Angèle se méfia. Un jour, son mari rapporta 2 crêpes que la cabaretière lui avait données. Il en mangea une. Angèle prit l'autre et la jeta dans le poêle. Édouard la regarda de travers. « Est-ce que tu serais jalouse par hasard ?» Elle ne dit mot, mais elle tremblait d'une colère dont la violence l'étonna elle-même. Un soir, un charretier entre pour faire réparer un harnais. « Mon mari est à Aven. Je vais l'attendre. Il me suit à 100 pas. » Au bout de 5 minutes, il s'impatiente. Au bout d'un quart d'heure, il s'en va. Brusquement, comme à pieds joints, une idée saute dans la tête de la jeune femme. « Il est chez Masson !» Elle sort, personne sur la route, pas de lumière dans le cabaret. Elle sanglotait sur le lit lorsqu'il rentra, plus d'une heure après le départ du charretier. Malhabile à dissimuler, elle pleura plus fort et lui fit d'incohérents reproches. Il lui jura que le charretier se trompait, qu'il rentrait d'Aven en droite ligne, puis se fâcha. Après ce qu'il avait fait pour elle, il ne méritait pas d'être ainsi soupçonné. Elle se tut, voulut le croire, quoiqu'un doute subsistât toujours en elle. Mais elle ne répondit plus au bonjour de Madame Masson, chez qui le bourrelier ne conduisit plus ses clients. Lorsque les frères et sœurs d'Édouard, mécontents de son mariage, parlèrent de vendre la maison qu'il occupait, elle en fut toute heureuse. Il valait mieux quitter Mongicourt. Elle serait ainsi débarrassée de la cabaretière qu'elle haïssait, de Mangulie qu'elle ne pouvait supporter, de sa famille et de celle de son mari, toujours hostile. Justement, le bourrelier de Trélon venait de mourir. N'y avait-il pas là une occasion à saisir? Il se laissa convaincre, et un mois après, à la mi-février, le ménage était installé à Trélon.